Le scepticisme, fidèle à sa propre vérité, repousse les tentations du sommeil dogmatique. Certes, il est arrivé à Montaigne d'écouter la voix qui flatte en nous l'instinct de paresse. Oh, que c'est un doux et molle chevet et sain, que l'ignorance et la curiosité a reposé une telle bienfaite. Tout le cours de sa vie démontre cependant qu'il ne s'y est pas tenu. D'ailleurs, et une fois de plus, il suffit d'écouter Montaigne répliquant à Montaigne « Iris et fille de Tomentis, l'admiration est fondement de toute philosophie, l'acquisition, le progrès, l'ignorance, le bout. » Voir Déa, mais vraiment. Il y a quelque ignorance forte et généreuse qui ne doit rien en honneur et en courage à la science, ignorance pour laquelle concevoir il n'y a pas moins de science que pour concevoir la science. Ainsi entendu, l'ignorance ne sera à point d'arrivée que sous cette condition de renvoyer au point de départ. Elle ramène l'acquisition. Il ne faut pas trouver étrange si gens désespérés de la prise n'ont pas laissé d'avoir plaisir à la chasse, l'étude étant de soi une occupation plaisante. Et l'inquisition, à son tour, réveille l'admiration. Montaigne, sur un exemple qui ne le touche que trop directement, rencontre et analyse les circonstances déterminantes de l'hérédité. Il est à croire que je dois à mon père cette qualité pierreuse, car il mourut merveilleusement affligé d'une grosse pierre qu'il avait en la vessie. Il ne s'aperçut de son mal qu'en le 67e an de son âge. J'étais né 25 ans, et plus, avant sa maladie, et durant le cours de son meilleur état. Où se couvait tant de temps, la propension à ce défaut. Et lorsqu'il était si loin du mal, cette légère pièce de sa substance de quoi il me battit, comment apportait-elle pour sa part une si grande impression? Et comment encore si couverte que 45 ans après, j'ai commencé à m'en ressentir, seule jusqu'à cette heure, entre tant de frères et de sœurs, et tous d'une mère. Qui m'éclaircira de ce progrès? Je le croirai d'autant d'autres miracles qu'il voudra, pourvu que, comme ils font, il ne me donne pas en paiement une doctrine beaucoup plus difficile et fantastique que n'est la chose même. De semblables faits, donnés d'une façon incontestablement positive et qui défient pourtant toute tentative d'explication rationnelle et même de représentation sensible, soulèvent inévitablement le problème formulé par Sénèque dans une réflexion de la préface des questions naturelles, reproduite aux dernières lignes de l'apologie de Raymond Sebond. Oh, la vile chose et abjecte que l'homme, s'il ne s'élève au-dessus de l'humanité. La réponse de Montaigne suit immédiatement. Voilà un beau mot et un utile désir, mais pareillement absurde. Car de faire la poignée plus grande que le poing, la brassée plus grande que le bras, et d'espérer enjamber plus que de l'étendue de nos jambes, cela est impossible et monstrueux. Ni que l'homme se montre au-dessus de soi et de l'humanité, car il ne peut voir que de ses yeux, ni saisir que de ses prises. Cela est net et clair, tellement que Montaigne prend la précaution d'ajouter « Il s'élèvera si Dieu lui prête extraordinairement la main. Il s'élèvera, abandonnant et renonçant à ses propres moyens et se faisant hausser et soulever par les moyens purement célestes. » Et l'exemplaire des essais contient une note qui achève de préciser le contraste. C'est à notre foi chrétienne, non à sa vertu stoïque, de prétendre à cette divine et miraculeuse métamorphose. Jusqu'à quel point, cependant, Montaigne porte-t-il à son propre compte pareille prétention? Y a-t-il dans ses déclarations de principe autre chose que des réserves de prudence, sinon des clauses de style? Là encore, avant de trancher ce débat capital, nous devons prendre garde. Quand nous accuserons Montaigne de démentir l'idéal de culture et de liberté qu'il a imprégné jusqu'au fond de l'âme dans le commerce familier des meilleurs des anciens, de pratiquer à l'égard des Écritures cette même dévotion superstitieuse dont il faisait grief aux suppôts d'Aristote. Il laissera dire, et le silence aggravera son cas. Tant pis donc pour l'auteur, mais tant pis aussi, tant pis surtout pour le lecteur, à qui aura manqué la grâce d'ironie sans laquelle les pages savoureuses et hardies des essais ne feraient plus que la platitude d'une lettre morte. De cette ironie déclarée et communicative, Raymond Sebond devait être la première victime. Tandis que le père de Montaigne avait pris terriblement au sérieux la théologie naturelle ou livre des créatures, Turneim y trouvait simplement quelques quintessences tirées de saint Thomas d'Aquin. Dès lors, si aucun disent que ses arguments sont faibles et ineptes à vérifier ce qu'il veut, Montaigne se range entièrement à leur avis. Il conteste seulement que la raison humaine en puisse établir qui vaille mieux, de sorte que cette soi-disant apologie de la scolastique religieuse est demeurée, dans l'histoire de la pensée occidentale et sous une forme allègrement féroce, un réquisitoire écrasant contre la doctrine dont Raymond Sebond s'était fait l'aventureux et naïf avocat. Il ne faudrait pourtant pas en conclure que l'horizon des essais se soit rétréci de lui-même, comme si Montaigne était par nature indifférent ou insensible aux échappées de l'homme par-delà les limites et les entraves de la condition humaine. Dès ma première offense, la poésie a eu cela de me transpercer et transporter. Et il lui arrivera encore d'avouer, Quant à moi, je ne m'estime point assez fort pour ouïr en sens racis des vers d'Horace et de Catulle, chantés d'une voix suffisante par une belle et jeune bouche. Il imagine même, sur la louange et pour l'intérêt du jeune Caton, une sorte de concours rétrospectif. Il lance sur la carrière Martial, Manilius, Lucain, Horace, enfin Virgile. Au dernier, premier de quelque espace, mais lequel, l'enfant bien nourri, jura ne pouvoir être rempli par nul esprit humain. Il s'étonnera, il se transira. Voici merveille. Nous avons bien plus de poètes que de juges et interprètes de poésie. Il est plus aisé de la faire que de la connaître. À certaines mesures basses, on la peut juger par les préceptes et par art. Mais la bonne, l'excessive, la divine est au-dessus des règles et de la raison. Quiconque en discerne la beauté d'une vue ferme et rassise, il ne la voit pas, non plus que la splendeur d'un éclair. Elle ne pratique point notre jugement. Elle le ravit et ravage. Et se souvenant de Lyon platonicien, Montaigne met en évidence le rayonnement qui émane du foyer initial, qui transmet du poète à l'acteur et par l'acteur, consécutivement, à tout un peuple, l'inspiration sacrée des muses. Toutefois, si amoureux et si affolé de la beauté, qu'il ait pu se déclarer à l'exemple de Socrate, Montaigne n'acceptera pas que le jugement aliène son droit. L'art, du fait qu'il la transfigure, manque la réalité. Nous devons nous défendre contre le génie, précisément parce qu'il possède le privilège de fausser les perspectives. Ainsi, les poètes ont exalté l'amour jusqu'à ce point que les forces et valeurs de ce dieu se trouvent plus vives et plus animées en la pâture de la poésie qu'en leur propre essence. Elles représentent je ne sais quel air plus amoureux que l'amour même. Ce qui nous échappe sur le plan esthétique, y a-t-il espérance de le saisir sur le plan moral ? Je vois bien, reconnaît Montaigne, qu'il n'est rien que nous ne puissions, voire jusque à surpasser la divinité même, dit quelqu'un Sénèque dans une lettre à Lucilius. D'autant que c'est plus de se rendre impassible de soi que d'être tel de sa condition originelle et jusqu'à pouvoir joindre à l'imbécilité de l'homme une résolution et assurance de Dieu. Il nous échoit à nous-mêmes qui ne sommes qu'avortons d'hommes, délancés parfois notre âme éveillée par les discours et exemples d'autrui, bien loin au-delà de son ordinaire. En résulte-t-il cependant que nous gagnerons ainsi l'accès d'un ordre de valeur qui serait transcendant par rapport au plan de l'humanité ? Montaigne le conteste expressément. Je trouve par expérience qu'il y a bien à dire entre les boutées et saillies de l'âme ou une résolue et constante habitude. Cette âme, qui agit par secousses, ne parvient pas à se transformer dans son fond véritable. C'est une espèce de passion qui la pousse et agite et qui la ravit aucunement hors de soi. Car ce tourbillon franchi, nous voyons que, sans y penser, elle se débande et relâche d'elle-même. Les vies de ces héros du temps passé, il y a quelquefois des traits miraculeux et qui semblent de bien loin surpasser nos forces naturelles. Mais ce sont traits à la vérité. Et il est dur à croire que de ces conditions ainsi élevées, on en puisse teindre et abreuver l'âme en manière qu'elle lui devienne ordinaire et comme naturelle. Ni le détour de la beauté, ni l'appel à la vertu ne permettent d'éluder le problème dont il faut maintenant considérer la difficulté intrinsèque. Comment l'homme peut-il s'attribuer la faculté de franchir la distance qui le sépare d'un absolu divin et justifier ainsi la vérité de sa religion ? La question étant précisée en ces termes, la verve de Montaigne est intarissable. L'apologie, qui a les apparences de répondre pour ce bon, ne cesse de parler et de lutter contre. Tout d'abord, il est remarquable que Montaigne n'a pas pris la peine de soumettre à une discussion méthodique les arguments traditionnels pour la définition de l'essence de la divinité ou la démonstration de son existence. Puisque la métaphysique est hors d'état d'expliquer ce qu'il convient d'entendre par nature, elle n'a aucune chance de pénétrer dans un domaine que l'on suppose constitué au-dessus, peut-être même à l'encontre de la nature. Tel qu'il se pose en fait à travers les essais, le problème religieux concerne uniquement l'humanité. Il s'agit de décider si dans l'ensemble des choses et dans le cours de la vie se manifeste un type de finalité qui autorisait l'homme à se regarder comme un centre d'intérêt pour une puissance suprahumaine. Envisagé de cette façon, le problème religieux se ramène au problème de l'orgueil. Pour le résoudre, il suffira de mettre l'absolu de la foi dogmatique en présence des diverses formes de leur attilibité auxquelles, sans le savoir, elle se trouve suspendue et qui dévoile la vanité de ses prétentions. Ô quider, combien tu nous empêches ? Le quider, c'est ce qui nous porte à croire, surtout à nous en croire. Voici un premier témoignage de cette incurable présomption, notre maladie naturelle et originelle, le privilège que nous conférons à notre planète par ce seul motif que nous en sommes les habitants. Montaigne interpelle l'homme. Ta raison n'a en aucune autre chose plus de vérisimilitude et de fondement qu'en ce qu'elle te persuade la pluralité des mondes. Les plus fameux esprits du temps passé l'ont cru, Et, ajoute Montaigne, se référant sans doute aux exemples donnés par saint Augustin dans sa Cité de Dieu, aucun des nôtres même, forcé par l'apparence de la raison humaine. N'est-il pas absurde que nous nous flattions d'appréhender et de qualifier la cause alors que nous sommes incapables d'embrasser l'étendue des effets physiques ou moraux? Tu ne vois que l'ordre et la police de ce petit caveau où tu es logé, au moins si tu la vois. Cette pièce n'est rien au prix de tout. C'est une loi municipale que tu allègues. Tu ne sais pas quelle est l'universelle. Parce que l'homme ne sait pas. Il use et abuse de sa propre ignorance. Il se va, plantant par imagination au-dessus du cercle de la lune et ramenant le ciel sous ses pieds. En réalité, la plus calamiteuse et frêle de toutes les créatures, c'est l'homme, quand et quand la plus orgueilleuse. Elle se sent et se voit logée ici, parmi la bourbe et la fiente du monde, attachée à la plus morte et croupie partie de l'univers, au dernier étage du logis et le plus éloigné de la voûte céleste avec les animaux. Et Montaigne insiste, de la pire condition des trois, c'est-à-dire des animaux de l'air, de l'eau et de la terre. La pluralité des espèces vivantes nous touche d'une façon plus directe encore que la pluralité des mondes habités. La comparaison s'étale sous nos yeux. Lorsque l'homme s'attribue ce privilège d'être seul dans ce grand bâtiment, qui est la suffisance d'en reconnaître la beauté et les pièces, seul qui en puisse rendre grâce à l'architecte et tenir compte de la recette émise du monde, nous ne pouvons pas ne pas le sommer de nous dire qui lui a scellé ce privilège, qu'il nous montre l'être de cette belle et grande charge. L'homme gardera le silence, mais les opérations de l'instinct, que Montaigne rappelle avec une complaisance inépuisable, y supplient éloquemment. Elles le contraignent à un double et perpétuel aveu d'impuissance. Non seulement nature nous refuse quand et quand les moyens de pouvoir arriver, par aucune institution et contention d'esprit, à l'industrie naturelle des bêtes, de manière que leur stupidité brutale surpasse en toute commodité tout ce qui peut notre divine intelligence. Mais il y a tels effets, auxquels il s'en faut tant que nous puissions arriver par imitation que par imagination même, nous ne les pouvons concevoir. Nous voilà donc remis à notre rang. Au demeurant, la part même que nous faisons aux animaux des faveurs de nature par notre confession, elle leur est bien avantageuse. Nous nous attribuons des biens imaginaires et fantastiques, des biens futurs et absents, desquels l'humaine capacité ne se peut d'elle-même répondre, ou des biens que nous nous attribuons faussement par la licence de notre opinion, comme la raison, la science et l'honneur. Et à eux, nous laissons en partage des biens essentiels, maniables et palpables. La paix, le repos, la sécurité, l'innocence et la santé. La santé, dis-je, le plus beau et le plus riche présent que nature nous sache faire. Pour revenir à mon propos, écrit encore Montaigne et Pascal à méditer chaque mot, nous avons pour notre part l'inconstance, l'irrésolution, l'incertitude, le deuil, la superstition, la sollicitude des choses à venir, voire après notre vie, l'ambition, l'avarice, la jalousie, l'envie, les appétits déréglés, forcenés et indomptables, la guerre, le mensonge, la déloyauté, la détraction et la curiosité. Ces paroles sont si bien faites pour découvrir et pour déraciner les supériorités factices dont les hommes aiment à se parer devant leur Dieu, que Montaigne feint d'en éprouver quelque inquiétude. Ce discours ne touche que notre commun ordre et n'est pas si sacrilège d'y vouloir comprendre ces divines, supernaturelles et extraordinaires beautés qu'on voit parfois reluire entre nous, comme des astres sous un voile corporel et terrestre.